VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel en Guinée après plusieurs jours de manifestations violentes contre le manque d'électricité à Boké. Dans le nord-ouest, le gouvernement a annoncé avoir décidé de faire la lumière sur la mort de deux personnes. Le calme est revenu dans la ville, mais les dégâts matériels sont importants. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est le ministre guinéen de l'administration du territoire qui a fait le bilan. 2 morts, 70 blessés, dont 14 gendarmes, selon le général Bourima Condé. Le bilan est lourd, conséquence des violences qui ont caractérisé le mouvement de colère. Des commerces pillés, deux camions de la gendarmerie nationale, les locaux de la compagnie départementale de la gendarmerie, des pick-up et des motos ont été brûlés, a dit le ministre guinéen. La liste des dégâts est longue. Le général Condé a aussi fait cas des actes de vandalisme qui n'ont pas épargné le marché central de Boké, le bloc administratif régional et les véhicules de commandement du gouverneur et du préfet. Ces émeutes ont également immobilisé une centaine de véhicules, chiffre donné par le ministre Bourima Condé, des véhicules en provenance de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Le gouvernement promet de faire toute la lumière sur ces émeutes, a indiqué le ministre guinéen de l'administration du territoire. Le général Bourima Condé a aussi dit que 3 groupes électrogènes sont en train d'être acheminés pour rétablir le courant électrique à Boké. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, Kinshasa a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après les incidents meurtriers de vendredi entre l'armée congolaise et des ressortissants burundais. Violences qui ont coûté la vie à 38 personnes, 37 Burundais et un officier congolais à Kamayola, dans la province du Sud Kivu. L'enterrement des victimes a eu lieu dimanche. Certaines sont représentées par les Nations Unies comme des réfugiés et demandeurs d'asile. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Lambert Mende.
C'est le résultat de l'enquête qui va nous donner des informations sur les auteurs de cette altercation entre la patrouille des FARDC et les personnes qui sont mortes ou blessées, et dont les amis ou les partenaires avaient provoqué la mort de l'officier des FARDC.
Donc on parle d'une réaction disproportionnée des forces de sécurité par rapport à des manifestants civils.
Permettez-moi d'être un peu surpris que l'on puisse demander une enquête et en même temps nous donner déjà les résultats d'une enquête qui n'a pas encore eu lieu. Je voudrais vraiment demander qu'on attende l'enquête pour conclure s'il y a eu une réaction disproportionnée ou proportionnée. Ça c'est la conclusion, c'est mettre la vie avant les bœufs.
Le ministre porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Au Congo-Brazzaville, les femmes ont réalisé une percée dans les postes électifs. 2 parmi elles dirigent pour la première fois les conseils départementaux. C'est le résultat d'une sensibilisation accrue autour d'une loi accordant 30% des places aux femmes sur les listes électorales. À Brazzaville, les précisions de Ngoula Ngosu.
Avec 17 femmes élues députées, alors qu'elles n'étaient que 12 à la dernière législature, la participation des Congolaises dans le pôle de décision progresse. Marie-Thérèse Bouvet, élue au Sénat, estime que le combat pour les droits politiques de la femme congolaise est loin d'être terminé.
Ça, déjà, c'est bon. Parce qu'au départ, on n'était que 12. Là, on vient d'ajouter 2, c'est bon. En tout cas, on est assez satisfait. Le combat, on l'a toujours mené, hein, le combat d'être représenté partout. On ne peut pas baisser les bras. On continuera à mener le combat.
2 femmes ont aujourd'hui pris la tête des conseils départementaux dans le pays. Chose qui était impossible il y a encore quelques semaines. La ministre de la Promotion de la Femme, Nefer Inès Ingani, fait un constat mitigé.
Ici est de souligner que l'on enregistre une légère progression du nombre de femmes élues tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'aux différents conseils départementaux et municipaux. Les résultats, bien que positifs dans l'ensemble, montrent que de nombreux efforts restent encore à accomplir en vue d'une représentativité équilibrée hommes-femmes dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine électif, où le Congo occupe jusque-là la 172e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire.
Plutôt optimiste, Didier Clotaire-Boutindi, chef d'une association politique, appelle les femmes à se lever pour leurs droits.
Si la loi donne 30% aux femmes, c'est même les femmes de se lever. Ils disent que non, nous, on doit respecter quand même la loi. Ah, donc, ils doivent aussi occuper leurs 30%. Donc, il ne faut plus attendre que ce soit les femmes qui ne parlaient pas hier. Il faut que les femmes parlent aujourd'hui. Hein, la femme doit prendre des décisions elle-même.
Analysant globalement le problème, Rock Eloge Nzobo, un activiste des droits politiques et civiques, indique que c'est tout le système électoral du pays qui n'avantage pas les femmes.
On ne peut pas régler le problème de la femme tant que, justement, on n'en pas sur des bases démocratiques bien définies. Il s'agit des nominations où on décide de qui on peut mettre à telle place. Parce que vous voyez, il y a les forts taux d'abstention. Je refuse toujours de voir la légitimité de ces élections. Et il n'y a pas amélioration tant que nous n'allons pas revoir les fondamentaux même des principes de la démocratie, des principes de processus électoral, que ce soit la question de découpage électoral, la question des listes électorales, la question de la commission indépendante électorale. Toutes ces questions doivent être débattues. À ce moment-là, lorsque nous aurons des résultats, on pourra évaluer de manière objective, de manière concrète.
Avec 246 femmes élues dans les conseils, la participation féminine dans la sphère de décision commence à prendre corps au Congo. Nguela Ngousou, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et à New York, il est 7h06. Le président américain Donald Trump ouvre aujourd'hui à New York l'Assemblée générale de l'ONU par une initiative controversée sur la réforme de l'organisation. Premier contributeur financier à l'ONU, les États-Unis veulent voir l'organisation mondiale réduire fortement son train de vie. Mais cette approche principalement budgétaire heurte nombre de membres des Nations Unies. Les discours pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU commenceront demain mardi, avec notamment ceux des dirigeants américains, français, marocains, turcs ou israéliens. 4 chasseurs furtifs et 2 bombardiers américains ont survolé aujourd'hui la péninsule coréenne dans une démonstration de force après les derniers essais nucléaires et balistiques nord-coréens, a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense. L'administration de Donald Trump a martelé dimanche qu'elle profiterait de l'Assemblée générale des Nations Unies cette semaine pour exiger la pleine application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, menaçant celle-ci de destruction si elle continuait de provoquer Washington et ses alliés. Le groupe militant palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis une décennie, a amorcé une normalisation des relations avec le gouvernement du président palestinien Mahmoud Abbas, une décision favorablement accueillie par le Fatah et l'ONU. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le Hamas a annoncé la dissolution de son comité administratif mis en place en mars et perçu par le président Mahmoud Abbas comme un gouvernement parallèle. Il a appelé le Fatah à des discussions sur la réconciliation nationale et l'organisation d'élections générales. Avec l'économie de la bande de Gaza en ruine et seulement 4 heures d'électricité par jour, le mouvement islamiste a dit qu'il veut que le gouvernement d'union nationale du président Abbas assume immédiatement le contrôle de ce territoire. Le rapprochement entre les frères ennemis palestiniens fait suite aux pourparlers séparés tenus récemment au Caire par des délégations du Fatah et du Hamas avec les responsables du renseignement égyptien. Israël impose depuis une décennie un blocus naval à la bande de Gaza. De passage le mois dernier, Antonio Guterres avait appelé à la levée de cette mesure, déclarant que la situation dans l'enclave palestinienne était l'une des crises humanitaires les plus dramatiques qu'il ait vues.
La Cour suprême indienne examinait aujourd'hui une contestation en justice de la déportation de dizaines de milliers de Rohingyas vivant en Inde, décidée par le gouvernement. Le recours a été introduit au nom de 2 hommes Rohingyas résidant dans un camp de réfugiés de New Delhi depuis qu'ils ont fui il y a plusieurs années. Les violences contre leur minorité musulmane en Birmanie bouddhiste officiellement à 16 000, on estime cependant à 40 000 le nombre de réfugiés Rohingyas résidant en Inde. Et puis la Cour suprême irakienne, la plus haute instance judiciaire du pays, a ordonné aujourd'hui la suspension du référendum d'indépendance prévu le 25 septembre dans le Kurdistan irakien jusqu'à ce qu'elle puisse examiner sa constitutionnalité. Selon une source au Parlement, au moins 3 députés ont déposé plainte contre ce référendum. Les pays voisins, Washington et d'autres, plaident pour que la région autonome depuis 1991 règle ses différends avec Bagdad sans découper l'Irak où les djihadistes tiennent encore deux fiefs. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.